Je donne à tous les pérégrins du monde habité, la cité romaine, toutes les formes d'organisation municipale étant maintenues, exception faite pour les déditis. Extrait de l'édit de l'empereur Caracalla, donnant à tous les habitants libres de l'Empire la citoyenneté romaine.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En juillet de l'an 212, l'empereur Caracalla décide d'accorder la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. Il faut tout de suite apporter quelques nuances. Il faut bien préciser, effectivement, habitants libres. Les esclaves, par définition, ne sont pas considérés comme des habitants susceptibles d'obtenir la citoyenneté romaine. De même, l'édit précise que certaines populations appelées déditis ne sont pas concernées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces populations déditis? Ce sont en fait des populations récemment soumises à l'autorité romaine et qui, pour l'instant, ne sont pas jugées aptes à obtenir cette citoyenneté. Mais il n'en reste pas moins vrai que cet édit, daté de juillet 212, on a longtemps hésité entre 212 et 215, mais maintenant les historiens sont d'accord sur l'année 212, est un événement tout de même important, parce qu'il y a une idée d'universalité qui s'établit clairement au sein du monde romain avec le phénomène donc de la citoyenneté donnée à tous les habitants libres de l'État romain. Alors, avant de rentrer dans le détail des raisons qui ont poussé l'empereur à cette décision, présentons qui est Caracalla. Et il est né à Lyon en 188 et il est le fils de Septime Sévère, qui est devenu empereur en 193 à l'issue de la mort de l'empereur Commode, assassiné, et d'une guerre civile qui avait opposé plusieurs chefs militaires. Guerre civile, donc, dont il sort victorieux. C'est une famille issue de Leptis Magna, dans l'actuelle Libye, en province de Tripolitaine, et il va adopter le nom officiel de Marcus Aurelius Severus Antoninus. Alors, expliquons ces quatre dénominations. Marcus Aurelius, ça veut rattacher indéniablement à Marc Aurel, le grand empereur qui est décédé en 180, et Septime Sévère veut, de manière factice, mais se rattacher à ce vénérable empereur, d'où le fait qu'il ait donné à son fils les prénoms de Marcus Aurelius. Severus, c'est le nom de famille, Septimus Severus, et puis Antoninus, le dernier nom, rattache à la dynastie des Antonins qui a régné sur l'Empire entre 98 et 192. Donc, il y a une volonté de rattacher cette famille de notables africains à la grande dynastie des Antonins. C'est pour cela aussi qu'on peut trouver comme dénomination de l'édit de Caracalla le terme de « Constitutio Antoniniana », c'est-à-dire la constitution antonine, puisque c'est rattaché au nom d'Antoninus. Alors, quand est-ce que Caracalla devient empereur? Un mot aussi sur le mot Caracalla. En fait, Caracalla est un surnom. Le Caracalla était un manteau porté traditionnellement en Gaule. Et il semble bien qu'en fait, ce soit une manière de nommer l'empereur de manière, je dirais, un peu péjorative. Mais c'est passé dans le langage courant et aujourd'hui, on utilise le mot, effectivement, le surnom de Caracalla pour désigner le souverain. Il va devenir empereur en 211. Son père meurt en Angleterre, à York, et dans ses volontés politiques, Septime Sévère avait voulu associer Caracalla et son jeune frère Geta. Donc le pouvoir exécutif au sommet de l'Empire aurait dû être partagé entre les deux frères. Mais enfin, il est toujours difficile de partager le pouvoir, ce qui fait que en 212, Geta va être exécuté par Caracalla. Alors, les sources divergent. Certaines sources disent que ce sont des gardes prétoriens de la garde impériale qui ont tué Geta dans les bras de sa mère Julia Domna. Mais certaines sources précisent que ça pourrait être Caracalla lui-même qui aurait tué directement son frère. Alors, deux constatations. D'une part, Caracalla n'avait peut-être pas un sens de la famille très approfondi, et surtout, plus fondamental, Caracalla estimait que le pouvoir ne se partageait pas, donc il a éliminé le jeune frère. Et c'est donc cet homme que les sources antiques nous présentent comme un taciturne, comme un homme irritable, un homme violent. Au demeurant, les bustes que l'on a conservés de lui ne le favorisent pas. Il a toujours l'air quelque peu renfrogné, les yeux plissés, une barbe plus ou moins apprêtée. Les sources antiques ne valorisent pas du tout le personnage. Elles signalent tout de même qu'il a construit les grands thermes à Rome, les thermes qui portent son nom, les thermes de Caracalla. Mais ensuite, il a bien sûr édicté cet édit dont nous allons essayer de comprendre les raisons. Faisons une première constatation. Les sources antiques sont peu prolixes sur l'édit de Caracalla. Dion Cassius l'évoque à deux reprises dans ses livres d'histoire. L'Histoire Auguste en fait une mention. Le grand recueil des lois romaines qu'est le Digeste en parle une fois également. Et saint Augustin, dans la Cité de Dieu, au livre 5, l'évoque également une fois. Donc, effectivement, constatons que les sources anciennes ne s'attardent pas trop sur l'édit. Par contre, nous le connaissons par un papyrus qui a été traduit en 1900 par un érudit allemand, Giessen. Et ce papyrus a été trouvé en Égypte et nous permet de connaître en partie le contenu de l'édit. Il nous précise bien, comme je l'indiquais dans ma phrase introductive, que les habitants libres de l'Empire reçoivent la citoyenneté, sauf donc les déditis, c'est-à-dire quelques populations récemment soumises à l'autorité romaine. Alors pourquoi prendre cet édit ? Les sources antiques qu'il évoque parlent de fiscalité. C'est-à-dire qu'en donnant la citoyenneté romaine à l'ensemble des habitants libres, eh bien, on élargissait l'assiette fiscale, puisque, par exemple, seuls les habitants libres devaient payer une taxe sur les héritages. En faisant donc de tous les habitants libres des citoyens romains, eh bien, vous élargissiez, à un moment où l'État romain a besoin d'argent, l'assiette fiscale et donc les revenus. Mais cela n'est pas à négliger, mais ce serait un peu réducteur. Il y a une autre explication, c'est l'harmonisation administrative. C'est-à-dire que désormais, il y a une simplification, puisqu'on supprime la classe des affranchis, la classe des pérégrins, c'est-à-dire les étrangers vivant dans l'Empire et n'ayant pas la citoyenneté romaine. Il y a donc, en donnant celle-ci, une harmonisation administrative qui simplifie sans doute la gouvernance de l'Empire. Il y a aussi une autre phrase qu'il faut analyser dans l'édit, c'est la phrase « augmenter la majesté du peuple romain ». C'est-à-dire qu'il y a sans doute, dans la manière de donner cette citoyenneté, le fait qu'on veut accorder au peuple romain une majesté particulière par la citoyenneté. Et cela vient consacrer une politique bien plus ancienne que Caracalla, c'est l'obtention régulière à des cités, à des groupes de la citoyenneté romaine. Car évidemment, Caracalla n'est pas le premier empereur à donner la citoyenneté romaine à des habitants de l'Empire. Ses prédécesseurs le firent. Ce qui change avec lui, c'est qu'il va complètement généraliser ce don de la citoyenneté, mais c'était une politique qui était celle de Rome depuis déjà fort longtemps, une manière d'intégrer en particulier les élites au système impérial. Et puis il y a une dernière raison qui est à prendre en compte, c'est la question religieuse. Il est fort probable que, en accordant la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, tous les habitants libres, hein, il faut toujours le préciser, eh bien, ça oblige ceux-ci à participer au grand culte civique qui harmonise, je dirais, la vie religieuse. En effet, les dieux traditionnels de Rome sont priés et on participe à des sacrifices qui leur sont dédiés. C'est une manière d'unifier autour des dieux traditionnels de Rome, les peuples divers et variés qui le composent. Vous pouvez à la fois être adorateur de tel ou tel dieu, mais vous êtes amené en tant que citoyen à participer à ces fêtes civiques que sont les cultes rendus aux dieux traditionnels. Et alors là, une remarque à faire, c'est qu'il est évident que cela va poser problème aux communautés chrétiennes, parce que si elles se vivent pour la plupart comme loyal sujet de l'empereur, il est évident que pour ces communautés chrétiennes, participer au culte traditionnel ne représente rien. Et ce n'est peut-être pas d'ailleurs par hasard que la première persécution générale qui dura quelques mois en 250 est liée justement à l'édit, un autre édit, mais de l'empereur Dèce cette fois-ci, qui demande à ce qu'il y ait un acte de loyalisme fait au travers de ces cultes traditionnels. Une ère nouvelle est sans doute née sur le plan strictement religieux.